avec le vent du nord qui vient s'écarteler. Avec le vent du nord, écoutez-le craquer.
Le plat pays. Bon, toujours à l'écoute de RESF, hein, Réseau d'éducation sans frontières, sur fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, et www.rfpp pour nous écouter en streaming partout dans le monde. Et je crois que Philippe Poinçon, hein, du Nord justement, enfin du Hauts-de-France, est en ligne maintenant. Allô Philippe ?
Oui, bonjour.
Oui, bonjour Philippe, comment va ?
Ça va, par ces temps troublés, ça va.
Ouais. Oui, c'est en troublé parce que tu vas donc nous parler de... Ben c'est toujours aussi troublé dans le Nord, pas que dans le Nord, mais dans le Nord c'est historique. C'est, donc tu vas nous parler d'une part de ce qui se passe sur Calais parce que y a toujours beaucoup de monde, toujours une très grosse répression et finalement les choses n'ont pas changé et apparaissent comme étant cycliques. Et puis tu vas aussi nous parler de ce qui se passe à Grande-Synthe, hein, de ce qui s'est passé à Grande-Synthe à côté de Dunkerque.
Oui, on va peut-être commencer par Grande-Synthe, en fait, parce que ça a du coup des effets sur Calais.
Ouais.
Grande-Synthe, donc un camp de réfugiés créé par Médecins Sans Frontières et par la municipalité de Grande-Synthe, à une époque où les conditions humanitaires s'étaient fortement dégradées, où il y avait plein de monde. L'État cherche à s'y opposer, puis finit par financer le camp. Change les règles du jeu et avec un effet pervers qui est que, comme l'État est dans une logique de déni par rapport à la présence des exilés, il instaure une règle qui est on n'admet plus de nouveaux. Et au fur et à mesure que les gens qui sont dans le camp partent, on démonte les abris. Sauf que dans les faits, il y a des nouvelles personnes qui arrivent.
Ouais.
Donc du coup, on démonte des abris, mais le nombre de personnes... a baissé pendant quelques mois, jusqu'à la destruction du bidonville de Calais.
Ouais.
Et puis là, il a doublé. Sauf qu'entre-temps, on a démonté des abris.
Ouais.
Donc les conditions de vie sont profondément dégradées. Et puis d'autre part, à partir du moment où on nie le fait qu'il y a des nouveaux qui arrivent,
ouais.
et où l'association missionnée par l'État pour gérer le camp ne gère pas vraiment les nouvelles admissions, et ben finalement, les attributions de... d'abri, de shelter, de cabane, quoi.
Ouais.
C'est géré par les passeurs, en fait.
Ouais.
Donc, du coup, on a des groupes qui organisent et qui contrôlent le passage,
ouais.
qui sont relativement violents traditionnellement dans le Dunkerquois,
ouais.
qui, en plus, gèrent des aspects entiers de la vie du camp. Et il se trouve aussi que, traditionnellement, ces passeurs sont des Kurdes irakiens et qu'après la destruction du bidonville de Calais, c'est beaucoup des Afghans qui sont allés dans le Dunkerquois et dans le camp de Grande-Synthe.
Ouais.
Qui, du coup, se trouvant plus nombreux, ont commencé à chercher aussi à se faire une place dans le camp et à se faire une place dans les zones de passage.
Ouais.
Ce qui a amené des tensions.
Ouais.
Et puis, ces tensions, dans l'après-midi du 10 avril ont dégénéré en bagarre assez violente avec des blessés.
Ouais.
Deuxième bagarre en soirée, et puis un incendie des cuisines collectives, et puis ensuite des incendies un peu partout dans le camp avec des abris qui brûlent. Et puis 80% du camp qui part en fumée comme ça dans la nuit. Sachant que politiquement, le ministère de l'Intérieur souhaitait fermer le camp avant les élections.
Ouais.
Que le ministère du Logement ne souhaitait pas le fermer, qu'on avait eu un arbitrage favorable au ministère du Logement, donc une convention qui avait été poursuivie jusqu'à fin août, mais que du coup, comme le camp part en fumée, finalement, c'est le ministère de l'Intérieur qui l'emporte par défaut, puisqu'il n'y a plus de camp. Très rapidement, le maire de Grande-Synthe annonce son intention de reconstruire, le préfet dit qu'il n'y aura pas de reconstruction, et assez rapidement, le ministre de l'Intérieur dit qu'il n'y aura pas de reconstruction du camp.
Ouais.
Sauf qu'il y a des gens. Alors l'État dit 1300 et quelques, les associations disent 1700. Ça, on a eu l'habitude pour Calais, de ce genre de décalage, on ne compte pas pareil.
Ouais.
Et puis, il faut trouver un tour de passe-passe pour faire disparaître ces gens, en fait.
Ouais.
Donc on les met dans des... Déjà on reloge une partie des gens dans des gymnases, mais tout le monde ne souhaite pas y aller.
Ouais.
Parce que les gens se méfient, parce qu'ils ont peur qu'on leur prenne leurs empreintes, parce qu'ils n'ont pas envie d'être identifiés.
Ouais.
Et puis les gens sont transférés en bus des gymnases vers des centres d'accueil et d'orientation un peu partout en France.
Ouais.
Donc on crée des places, théoriquement un millier de places de CAO en quelques jours.
Oui, d'ailleurs, une chose qui était un petit peu surprenante, c'est que des personnes se sont refusées des places en CAO parce qu'il n'y en avait plus. Et oui. Dès le lendemain ou le surlendemain de l'incendie, tout d'un coup, il y a eu 1000 places qui ont apparu comme ça. Et...
Oui, le camp de Paris était complètement engorgé parce qu'il n'y avait plus de place en aval dans les CAO. Et
ouais.
Du coup, on en débloque 1000.
Ouais.
Voilà. Sachant que...
Alors peut-être préciser, CAO, quand même un centre d'accueil et d'orientation qui est en fait un espèce de centre de tri très provisoire quand même.
Oui, c'est un espèce de sas auquel on a accès à condition de s'éloigner de la frontière britannique ou de Paris.
Mmh.
Auquel on a accès, au départ c'était sur une base de volontariat. Des gens qui soit souhaitent demander l'asile, soit l'ont déjà fait, soit se posent la question.
Ouais.
Il n'y a pas de condition préalable de demande d'asile.
Mmh.
Et puis de plus en plus, avec les expulsions de campements à Paris, la destruction du bidonville de Calais, l'incendie du camp de Grande-Synthe, c'est plus du volontariat. C'est,
Ouais, et puis ça,
dans les bus.
Ça, on en reparlera, c'est une petite parenthèse, une digression, mais on a vu des gens qui étaient assignés à résidence en vue de leur expulsion dans des CAO. Et...
Ouais.
Mais bon, c'est...
que pour faire monter les gens dans les bus et pour leur dire que l'asile c'est chouette en France, on leur a dit aussi que si par hasard on trouvait leurs empreintes digitales dans un autre pays partie du règlement Dublin 3,
ouais.
Eh bien on ne les renverrait pas dans ce pays-là. Alors il y a plusieurs versions des promesses, on traitera votre demande d'asile en France, il n'y a pas de problème d'empreinte digitale,
ouais.
Alors on ne vous obligera pas à retourner dans ce pays-là. Apparemment, il y a eu un peu les mêmes promesses, plus ou moins officieusement, qui ont été faites pour les gens de Grande-Synthe.
Ouais.
Mais en tout cas, voilà, il y a à peu près un millier de personnes qui se sont retrouvées dans des gymnases,
ouais.
Sachant qu'il y a des gens qui ne sont pas retrouvés dans des gymnases tout de suite.
Ouais.
Il y a un camp d'à peu près 200 personnes qui s'est reformé sur la commune de Bourbourg,
ouais.
Qui a été évacué 24 heures après l'incendie.
Ouais.
C'est-à-dire des gens qui avaient quitté Grande-Synthe puisque tout était détruit,
mmh.
Qui avaient bivouaqué sur cette commune et qui ont été expulsés le matin suivant leur installation et qui ont été relogés dans un gymnase aussi.
Mmh.
Officiellement, tous les gymnases ont été vidés pour que les gens partent vers des CAO entre mardi et samedi.
Ouais.
Sauf que il y a un article de la Voix du Nord qui circule aujourd'hui où ils ont retrouvé un gymnase avec des gens dedans.
Oui.
Alors on ne sait pas si c'est des nouvelles personnes qui sont arrivées, si c'est enfin on a un peu l'impression que ça fonctionne pas très bien.
Mmh.
Et de toute façon, un millier de personnes qui sont parties vers les CAO, on sait qu'il y a des gens qui sont pas du tout restés.
Mmh.
Grande-Synthe, c'est un camp payant pour du passage payant et c'est des gens qui ont déjà misé pas mal pour aller au Royaume-Uni.
Mmh.
Où la demande d'asile était traditionnellement pas très très importante.
Mmh.
Contrairement par exemple à Calais, où on voit plus des gens arriver qui n'ont pas d'argent, qui essayent pendant quelques mois et puis qui éventuellement vont demander l'asile parce qu'ils sont dans une situation d'échec.
Mmh.
C'est vrai que ça marchait moins comme ça à Grande-Synthe. Donc les gens sont moins enclins à rester en CAO.
Mmh.
Donc il y a des gens qui se cache un peu dans les environs de Dunkerque.
Mmh.
Et on a pu voir avec le campement de Bourbourg que la police les déloge s'ils sont trop visibles.
Mmh.
Et puis, il y a au moins une grosse centaine d'Afghans, principalement d'Afghans, qui sont revenus sur Calais.
Mmh.
C'est-à-dire, on a le mouvement inverse de celui de la destruction du bidonville de Calais. Quoi.
Mmh.
Il n'y a plus de lieu sur Dunkerque. De toute façon, à Dunkerque même, il y avait peu de possibilités de passage.
Ouais.
Donc soit les gens venaient sur Calais, soit ils étaient emmenés en voiture sur des parkings en amont, sur les autoroutes, en Belgique notamment,
ouais.
Soit ils allaient sur Zeebruges en voiture, soit c'est des camions avec un chauffeur qui était complice, qui s'arrêtait et qui chargeait des gens. Mais on était plutôt sur ce genre de plan de passage qui n'était pas vraiment lié aux deux petits lieux de passage qui est autour de Dunkerque. c'est-à-dire un petit parking autoroutier et puis un port ferry Dunkerque qui n'est pas très très important en termes de liaison vers le Royaume-Uni.
Ouais.
Donc la plupart des gens passaient ailleurs, donc ils ne sont pas obligés de rester sur Dunkerque en fait. Voilà. Donc il y a une partie des gens qui se sont déplacés vers Calais, probablement pas seulement, probablement aussi vers la Belgique.
Ouais.
Voilà, on est un peu dans cette situation de dispersion, d'invisibilisation, qui a été médiatisée par l'État. C'est voilà, on loge les gens dans des gymnases, voilà, on les emmène vers des CAO.
Et puis ce qu'on médiatise en amont de ça, il y a, c'est une espèce de guerre tribale, de guerre ethnique. C'est les Kurdes contre les Afghans. Les Kurdes contre les Afghans. Ces gens-là, on les met ensemble, ils se bagarrent et ils mettent le feu.
Oui, on peut. Effectivement, il y a un peu cet aspect-là. Alors qu'on a effectivement une frontière qui est fermée, donc une organisation du passage illégal, avec des territoires, des contrôles de territoire, et puis c'est payant.
Oui, et donc
des enjeux financiers, des enjeux de pouvoir, des enjeux d'appropriation de ces territoires-là, qui entraînent par moments des tensions extrêmement violentes, ouais.
Voilà, et donc c'est des problèmes de territoire et pas des problèmes ethniques.
Non, c'est absolument pas des problèmes ethniques, non.
Voilà, et donc sur Calais maintenant, parce que sur Calais, depuis l'évacuation du bidonville d'État, rien n'est réglé.
Non, pas du tout, et en plus il y a une pression des autorités, alors c'est souvent la municipalité qui prend l'initiative et puis l'État qui embraye ensuite.
Ouais.
Une pression qui s'est d'abord exercée sur les douches qui ont été mises en place par le Secours catholique,
ouais,
et qui continue maintenant à s'exercer sur les distributions de repas qui sont interassociatives.
Ouais.
C'est-à-dire que les distributions de repas ont commencé dans une zone industrielle où il y a une partie des gens qui bivouaquaient. Du coup, la mairie a pris un arrêté anti-rassemblement pour interdire les distributions de repas.
Ouais.
Le tribunal administratif a été saisi. Il a suspendu en référé, donc il a suspendu l'arrêté avec des motivations extrêmement fermes sur l'atteinte aux libertés fondamentales, sur le traitement inhumain et dégradant que constituerait le fait que les gens n'aient pas accès à de la nourriture. Donc en principe, l'arrêté d'interdiction étant suspendu par le tribunal, les distributions peuvent avoir lieu. Et là, on voit la police nationale qui déboule et qui disperse systématiquement les distributions au bout d'une heure ou parfois un peu plus. Apparemment, avec comme apparence légale des réquisitions du procureur pour des contrôles d'identité. C'est-à-dire que du coup, on a un rôle assez ambigu du procureur qui fournit à la police les moyens de disperser des distributions alors qu'une décision de justice vient de les autoriser. Enfin, vient d'interdire de les interdire. Donc on a un procureur de la République qui finalement fournit à la police ses instruments pour violer une décision de justice. Donc voilà, on en est un peu là. Dans une intrication finalement de faire quand même obstinément, d'interpeller les institutions compétentes à la fois médiatiquement et éventuellement de ressaisir le juge par rapport à ce qui est une entrave à l'application d'une décision de justice. Donc, voilà un peu où on en est. Sachant qu'effectivement, du coup, il y a à la fois plus de monde qui arrive indépendamment de l'incendie de Grande-Synthe. Des gens qui reviennent des CAO, mais aussi beaucoup de gens nouveaux, entre guillemets, qui se dirigent vers le Royaume-Uni. Donc, on voit au niveau des distributions de repas une augmentation, une baisse il y a 3 semaines à peu près, puis ça remonte. Et puis, avec l'incendie de Grande-Synthe, là, on voit réapparaître plein d'Afghans, quoi. Concrètement, et c'est vrai que si on est sur, on estime 400 personnes avant l'incendie de Grande-Synthe, voir arriver une centaine d'Afghans, c'est vrai que c'est assez sensible, en fait.
Oui, c'est...
Sachant que, du coup, on a une chasse à l'Afghan de la part de la police. C'est-à-dire ils arrêtent préférentiellement les gens qui ont une tête d'Afghan.
Ouais.
C'est préférentiellement des gens qui ont une tête d'Afghan qui sont placés en rétention, et on voit se multiplier les OQTF, obligations de quitter le territoire français, avec comme pays de destination l'Afghanistan. Mais dans un contexte où ça coince. Parce que c'est un peu... C'est à la fois une répression très dure et en même temps une espèce de capitale de l'absurde.
Ouais.
C'est-à-dire qu'au moment où on place en rétention de plus en plus d'Afghans pour faire de l'intimidation avec des OQTF pour les renvoyer en Afghanistan, il se trouve qu'il y a un manque de personnel au centre de rétention.
Ouais.
Donc ils n'arrivent plus à fournir les escortes. Il y a des recours devant le tribunal.
Ok.
Donc on a une salle d'audience du juge des libertés et de la détention qui est juste à côté du centre de rétention, donc là ça marche encore.
Ouais.
Mais à chaque fois que les gens font appel,
ouais,
il n'y a plus de possibilité d'escorte pour les emmener à la cour d'appel.
Okay.
Donc du coup ils sont systématiquement libérés puisqu'ils ne sont pas présentés devant le juge.
D'accord.
Donc en ce moment on a plein de libérations comme ça, par déchaud, parce que le système ne marche pas.
Ouais.
Tant mieux.
Oui, c'est...
Sauf que les gens, s'ils n'ont pas fait un recours devant le tribunal administratif, ils se trimballent toujours avec leur OQTF Afghanistan. Mmh. Donc s'ils sont arrêtés à un moment où rétention fonctionne de manière plus tristement normale.
Et l'OQTF, il faut se dépêcher de le contester.
Ouais, il y a 48 heures en fait.
Voilà. Et je crois qu'il y a eu donc une des saisines du défenseur des droits et ouais, qu'il y aurait eu des falsifications de procès-verbaux par la police, en fait, des choses un peu curieuses.
Oui, ben c'est quand on fait un suivi à peu près systématique en fait des audiences du juge des libertés et de la détention à Coquel,
ouais,
à côté du centre de rétention, c'est vrai qu'on voit des choses. On voit 5 personnes passer à la file avec toutes le même la même date de naissance en fait.
Oui, c'est assez rigolo.
Deux frères qui se disent mineurs mais qui sont pas jumeaux.
Oui, mais qui
sont en centre de rétention parce que on leur a mis la même date de naissance. Dans le procès verbal, c'est d'ailleurs marqué qu'ils ont signalé qu'ils étaient frères.
Ouais.
Mais on leur met quand même la même date de naissance alors que visiblement ils n'ont pas le même âge, ils sont pas jumeaux quoi. Donc ça atterrit devant le juge. Devant le juge atterrissent des réquisitions du procureur non signées, non datées.
Mmh.
Un peu comme si la police au commissariat, ils avaient des réquisitions type.
Ouais.
Et puis qu'ils en foutent une dans le dossier alors pas signée parce qu'ils en sont apparemment pas à imiter la signature du procureur.
Mmh.
Mais ils en mettent comme ça pour compléter les dossiers quand ils ont une arrestation un peu douteuse, qu'ils n'avaient pas vraiment de base pour leur contrôle. Enfin, c'est comme ça qu'on peut l'interpréter.
Mmh.
Et on a toutes ces choses-là qui sont... Et effectivement, on voit de plus en plus de mineurs placés en rétention,
ouais,
avec un âge disant qu'ils sont majeurs, alors qu'eux se disent mineurs et qu'il n'y a eu aucune expertise d'âge.
Ouais.
Et parmi ces mineurs, des jeunes qui sont vraiment très jeunes, quoi.
Oui, ça on va...
Temps, il y a le doute, voilà, quand même, il a peut-être 18 ans, etc., mais des mineurs dont on peut se dire oui, il a 16 ans quoi.
Oui, ça on en reparlera sûrement la semaine prochaine ou la suivante, de très très jeunes gamins qui sont je n'ai rencontré un en CAO qui a 15 ans, et pour l'ASE il est majeur, donc il peut pas être pris en charge par l'ASE, et donc il veut déposer une demande d'asile après tout en disant que comme s'il était majeur, mais on lui dit non, c'est pas possible puisque tu es mineur, il te faudrait un administrateur ad hoc, et quand il veut l'administrateur ad hoc on lui dit c'est pas possible, tu es majeur.
Ouais.
Donc c'est. Mais on a quand même deux petites bonnes nouvelles. Hein. Une dans le nord, donc dans le Pas-de-Calais, hein, c'est sur Noranda-Fonte.
Oui, alors du coup, on parle un peu de Calais et de Pointe-Sainte, mais il y a quand même toute la politique de destruction de campements qui se fait ailleurs.
Ouais.
Et sur Noranda-Fonte, ça a échoué en fait.
Voilà, ça
y est. Il y a eu une demande d'expulsion qui a été présentée à la justice, qui a été bloquée en première instance et qui a été bloquée en appel.
Voilà, donc
par contre, la mauvaise nouvelle pour Noranda-Fonte, enfin la mauvaise nouvelle pour les personnes qui y sont, c'est que la politique, c'est aussi de fermer les parkings autoroutiers.
Voilà, et ça...
Donc le parking qui est à côté, il est fermé maintenant. Donc Effectivement, le camp est juridiquement sauvé, mais...
mais les raisons d'être du camp... Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Philippe, hein, parce que je vois que notre émission elle est quasiment finie, et puis que les oreilles loin du front, excellente émission, est en train de s'installer dans le studio. Donc, si on veut continuer, en fait, si on veut avoir toutes les infos que tu nous donnais maintenant, hein, c'est pas très compliqué. Il suffit d'aller sur le blog Passeur d'Hospitalité, dont tu es un des principaux rédacteurs.
Ouais.
Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Philippe. Et puis, donc, je te dis à très bientôt. Hein, et j'espère que tu vas venir très vite à Paris, qu'on puisse faire une émission de nouveau en direct ensemble.
Oui, volontiers.
Voilà. Et puis, donc, merci. Puis, à très bientôt. Au revoir.
À bientôt. Au revoir.
Salut. Voilà. Et puis, donc, il est temps maintenant de passer très vite à notre agenda. Hein,